Chapitre 28. Trois jours se sont écoulés depuis la grande évasion des Taumib. Je n'ai pris aucun risque. J'ai manuellement isolé tous les réservoirs du circuit d'alimentation en carburant des moteurs. Et puis je les ai ouverts un à un afin de prélever un échantillon d'astrophage et de chercher au microscope la trace éventuelle d'une contamination. Fort heureusement, les 9 réservoirs ont passé mon test avec succès. J'ai remis en route les moteurs tournants et j'ai recouvré mon accélération d'1,5G. Je bricole une alarme Taumib pour le cas où un incident similaire se reproduirait. J'aurais dû y penser avant, mais c'est facile à dire a posteriori. Elle se résume à une lamelle tartinée d'astrophage avec une lampe d'un côté et un capteur de lumière de l'autre. Le système est à l'air libre dans le laboratoire. Si des Taumib trouvent les astrophages, elles les mangeront. La lumière traversera la lame et le capteur sonnera. Pour le moment, tout va bien. La lamelle est noire de jet. À présent que la situation est redevenue normale et que le problème est contenu, il est temps de poser la question à $1 million. Comment les Taumib se sont-elles échappées? Les mains sur les hanches, j'examine la zone de quarantaine. Que le coupable se dénonce. Cela n'a aucun sens. Les fermes ont fonctionné sans aucun problème pendant des semaines, et les mini-fermes sont des capsules d'acier parfaitement closes. Peut-être quelques Taumib solitaires patientaient-elles à bord du vaisseau depuis la dernière crise, au-dessus d'Adrian. Sauf que je n'avais retrouvé aucun astrophage mort jusque-là. Non. Nos expériences à Rocky et moi ont démontré que les Taumib ne pouvaient pas survivre plus d'une semaine sans alimentation. Et elles ne connaissent pas la modération. Soit elles pullulent en mangeant tous les astrophages disponibles, soit elles ne sont pas présentes du tout. Un des contenants fuit forcément, mais je ne peux pas me débarrasser de tout. J'ai besoin de ces Taumib pour sauver la Terre. Comment faire dans ce cas? Il me faut absolument déterminer lequel pose un problème. Je vérifie chaque ferme consciencieusement. Comme elle se trouve dans des caisses en plastique, je suis dans l'incapacité d'actionner les commandes. Mais je n'en ai pas besoin car elles sont toutes automatisées. C'est un système relativement simple. Rocky a tendance à trouver des solutions élégantes à des problèmes complexes. Chaque ferme surveille la température de son environnement. Si elle chute en dessous de 96,415 degrés, cela signifie qu'il n'y a plus d'astrophages, que les Taumib les ont mangés. En cas de besoin, elle fournit un peu plus d'astrophages. C'est aussi simple que cela. Et le système comptabilise ses séances de nourrissage. Tout cela lui permet d'estimer la population des Taumib et d'ajuster le rythme des nourrissages en conséquence. Un écran permet de contrôler l'état actuel des choses. J'examine chacun de ces écrans. Tous affichent une température de 96,415 degrés et une population de Taumib estimée à 10 millions d'individus. Exactement comme prévu. La pression de l'air à l'intérieur des fermes est très inférieure à celle de l'azote qui les entoure. S'il y avait des fuites, l'azote pénétrerait dans les fermes et les Taumib ne mettraient pas longtemps à mourir. Sauf qu'elles sont vivantes et que cela fait déjà 3 jours. Mes cuves ne fuyant pas, le problème doit venir des mini-fermes. Mais comment un microbe pourrait-il traverser un demi-centimètre d'acier iridien? Rocky est compétent, et il sait tout ce qu'il y a à savoir sur cet acier. Il n'y a pas de Taumib sur Eride, mais il y a d'autres microbes. Tout cela m'amène à penser une chose que je n'aurais pas cru possible. Rocky a commis une erreur de conception. Rocky ne commet jamais d'erreur, surtout lorsqu'il crée des objets. Il est l'un des ingénieurs les plus doués de toute sa planète. Il n'a pas pu se tromper. Si. Il me faut une preuve définitive. Je prépare plus de lamelles en verre couvertes d'astrophages. Il n'y a rien de mieux pour détecter la présence de Taumib, et elles sont très faciles à faire. Je commence par la caisse qui contient les 2 mini-fermes destinées à George et Ringo. Elles ont l'air parfaitement étanches, c'est certain. Après tout, ce sont des capsules de métal, des boîtes en acier iridien parfaitement lisses à l'extérieur et pleine de choses diverses à l'intérieur. Je décolle le ruban adhésif d'un coin, j'entr'ouvre le couvercle pour glisser une lamelle de verre dans la boîte, puis je referme tout. Expérience numéro 1, m'assurer que je n'ai pas involontairement donné naissance à une super tomibe capable de survivre dans l'azote pur. Autre chose amusante que j'ai apprise, il suffit de 2 heures pour que des tomibes nettoient complètement une lamelle couverte d'astrophages. J'attends donc 2 heures et je constate que la lamelle est restée noire. Bien. Pas de super tomibe donc. Je décolle de nouveau le ruban adhésif et j'entr'ouvre la caisse pour l'aérer pendant 1 minute. Et puis je referme tout. La concentration d'azote à l'intérieur est redevenue normale. Trop basse en tout cas pour inquiéter les tomibes 82,5. S'il y a une fuite dans ces mini-fermes, la lamelle me le fera savoir. 1 heure plus tard, pas de résultat. 2 heures, pas de résultat. Je prélève un échantillon de l'atmosphère de la boîte pour vérifier. Le niveau d'azote est extrêmement bas. Il ne pose donc pas de problème. Je scelle la boîte et revérifie 1 heure plus tard, toujours rien. Les mini-fermes ne fuient pas. En tout cas pas celle destinée à George et Ringo. Peut-être y avait-il une fuite dans une des fermes que j'ai déjà installées. Celles-ci sont collées sur John et Paul. Elles ne sont pas du tout protégées par la coque des scarabées. Je répète mon expérience de détection de tomib dans les boîtes de John et Paul. J'obtiens le même résultat. Il n'y a pas de tomib du tout. Bon, le test ultime maintenant. Je sors de quarantaine John, Paul et les 2 mini-fermes non installées. Je les pose sur la table du laboratoire à côté de mon alarme tomib. Je suis quasiment sûr qu'ils sont nickel, mais si ce n'est pas le cas, je veux le savoir le plus vite possible. Je m'intéresse alors à des coupables encore moins probables, mes cuves de production de tomib. Si les tomibes sont incapables de traverser l'acier éridien, il y a encore moins de chances qu'elles franchissent une paroi en xénonite. 1 centimètre de xénonite peut contenir les 29 atmosphères de pression du monde de Rocky. Elle est plus dure que le diamant et bizarrement pas du tout cassante. Il convient néanmoins d'être exhaustif. Je répète mon expérience avec mes 10 cuves. Rien ne m'oblige à les tester une à une. Je fais donc tout en même temps. Mes 10 cuves se trouvent dans des caisses scellées, emplies d'air normal, et doté d'une lamelle de verre badigeonnée d'astrophages. La journée a été longue. Le moment est venu de faire une pause et de dormir. On verra ce que cela donnera à mon réveil. Je vais chercher dans le dortoir de quoi me coucher dans le laboratoire. Si mon alarme tomib se met à hurler, je veux être certain de l'entendre. Je suis trop crevé pour élaborer une solution plus bruyante, aussi m'est-il plus facile de rapprocher mes oreilles de l'alarme. Je me couche et me sens partir. Dormir sans être observé me fait un drôle d'effet. Je me réveille 6 heures plus tard. Café? Les bras de ma nounou mécanique étant à l'étage en dessous, je n'obtiens aucune réponse. Ah, c'est vrai. Je m'assieds, m'étire, puis je me lève et titube vers ma zone de quarantaine. Voyons comment se portent mes cuves. Je vérifie la caisse contenant la première cuve. La lamelle est complètement transparente. Je passe à la suivante. Attendez, elle est transparente? Je ne suis pas tout à fait réveillé. Je me frotte les yeux et regarde de nouveau. La lamelle est bien transparente. Des tomibes ont trouvé la lamelle. Elles sont sorties des cuves. Je me tourne à la hâte vers mon alarme posée sur la table. Elle ne sonne pas, mais je m'en approche pour vérifier. La lamelle qu'elle contient est toujours couverte d'astrophages. J'inspire profondément, et puis je souffle longuement. D'accord. D'accord. Je retourne dans la zone de quarantaine pour examiner les autres fermes. Toutes, de la première à la dernière, contiennent une lamelle complètement transparente. Les fermes fuient. Elles fuient toutes. Les mini-fermes, par contre, sont en bon état. Elles sont posées sur la table à côté de mon alarme. Je me masse la nuque. J'ai identifié le problème, mais je ne le comprends pas. Les taumibes sortent des cuves? Mais comment? S'il y avait une fissure dans la xénonite, l'azote sous pression serait entré à l'intérieur et aurait tout tué. Les 10 fermes sont florissantes et abritent une population de taumibes en pleine forme. Où se trouve la fuite dans ce cas? Je descends dans le dortoir pour le petit déjeuner. Je fixe du regard les parois transparentes de l'atelier de Rocky. Dans l'une d'entre elles, il y a un trou circulaire pratiqué à ma demande. L'atelier me sert de zone de stockage désormais. Je mâchouille mon burrito en essayant de ne pas penser au fait que je n'aurai bientôt plus que de la bouillie à manger. Imaginons que je sois une taumibe. Je suis des millions de fois plus grosse qu'un atome d'azote. Mais je suis capable de me faufiler dans un trou trop petit pour un atome d'azote. Comment est-ce possible? Et comment est apparu le trou en question? J'ai un mauvais pressentiment, un soupçon. Et si les taumibes étaient capables de passer entre les molécules de xénonite? Enfin, façon de parler. Et s'il n'y avait pas de trou en réalité? Nous avons tendance à voir les matériaux solides comme des barrières magiques. À l'échelle moléculaire, cependant, ce n'est pas le cas. Ils sont constitués de rubans de molécules, de treillis d'atomes ou des deux. Dans le monde de l'infiniment petit, les objets solides se rapprochent plus d'une jungle touffue que d'un mur de briques. Je peux traverser une jungle sans aucun problème, en enjambant des buissons, peut-être, en contournant des arbres, ou en me baissant pour passer sous des branches. Mais c'est tout à fait faisable. Imaginez 1000 lanceurs de balles de tennis répartis en bordure de cette jungle et positionnés de façon aléatoire. Jusqu'où les balles pénétreront la forêt? La plupart ne dépasseront pas les premières rangées d'arbres. Certaines iront peut-être plus loin que les autres à la faveur d'un rebond improbable. Une poignée profiteront même de plusieurs rebonds. Très vite, cependant, même les balles les plus chanceuses se retrouveront à court d'énergie. Les chances de trouver des balles au-delà de 15 mètres seraient extrêmement ténues. Admettons que la jungle mesure 1,5 km de profondeur. J'aurais de grandes chances de la traverser, mais une balle de tennis, non. C'est la différence entre les taumibes et l'azote. L'azote se déplace en ligne droite et se heurte aux obstacles comme une balle de tennis. La taumibe est comme moi, en revanche. Elle répond à des stimuli. Elle perçoit son environnement et réagit à des informations sensorielles. Nous savons déjà qu'elle est capable de localiser les astrophages et de se diriger vers eux. Elle a des sens. Les atomes d'azote, en revanche, sont victimes de l'entropie. Ils ne se donnent pas le mal de faire quoi que ce soit. Alors que je suis capable de gravir une colline, une balle de tennis finira forcément par la dégringoler. Tout cela me semble vraiment bizarre. Comment la taumibe, originaire de la planète Hadrian, saurait-elle naviguer avec circonspection à travers la xénonite, invention technologique de la planète Éride? Cela n'a aucun sens. Les formes de vie ne développent pas des traits sans raison. Les taumibes vivent dans les couches supérieures de l'atmosphère. Pourquoi développeraient-elles la capacité de se déplacer dans une structure moléculaire dense? Pour quelles raisons auraient-elles développé... Je lâche mon burrito. Je connais la réponse. Je refuse de l'admettre, mais je connais la réponse. Je retourne dans le laboratoire où je mets en place une expérience pour le moins stressante. Enfin, ce qui me stresse, c'est plutôt la crainte que le résultat confirme mes craintes. J'ai toujours l'astro-chalumeau de Rocky. C'est le seul objet à bord de ce vaisseau qui puisse atteindre la température nécessaire pour dissocier de la xénonite. Grâce au tunnel de Rocky, je dispose de plein de xénonite. Je taille donc dans une paroi transparente du dortoir. Je fais cela petit à petit, car je dois attendre que le support vie rafraîchisse la température ambiante. En effet, l'astro-chalumeau produit énormément de chaleur. À la fin, je dispose de 4 disques d'environ 2 pouces de diamètre. Ouais, des pouces. Quand je suis stressé, j'ai recours aux unités de mesure impériale. Être américain, ce n'est pas toujours facile. Je les emporte dans le laboratoire où je mets en place une expérience. Je prends des astrophages en sandwich entre 2 disques. De quoi régaler des taumibes, à condition qu'elles traversent les couches de pain en xénonite. Je colle les 2 disques ensemble avec de l'époxy, puis je prépare un autre sandwich. Je recommence ensuite en remplaçant la xénonite par des disques de plastique ordinaire. Bien. 4 échantillons d'astrophage hermétique, 2 avec des disques de xénonite, 2 avec des disques de plastique, scellés avec de l'époxy. Je prends 2 boîtes transparentes munies d'un couvercle étanche que je pose sur la table du laboratoire, et puis je mets dans chaque boîte un sandwich en xénonite et un sandwich en plastique. Dans mon placard à échantillons, j'ai quelques fioles de métal emplies de tomib naturel, les mêmes que celles qui vivent sur Adriane, pas mes tomib 82,5. J'en prends une et je l'ouvre à l'intérieur d'une de mes boîtes que je referme aussitôt. J'emprunte une voie dangereuse, mais au moins sais-je comment contrer une invasion de tomib si elle doit survenir. Tant qu'il me reste de l'azote, je suis en sécurité. Je m'approche de la cuve numéro 1 dans la zone de quarantaine. J'utilise une seringue pour prélever de l'air infesté de tomib dans la caisse qui l'entoure, et puis j'inonde immédiatement la caisse d'azote. Je n'oublie pas de reboucher le trou que j'ai fait pour la seringue. De retour devant la table du laboratoire, je referme l'autre contenant et utilise la seringue pour y injecter des tomib 82,5. Et puis je scelle le trou avec du ruban adhésif. Je pose mon menton sur mes mains et contemple mes deux boîtes. On va voir de quoi vous êtes capable, bande de délinquantes. Cela prend 2 heures, mais je vois enfin les résultats. Des résultats conformes à mon hypothèse et à mes craintes. Zut, 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 marmonnai-je en secouant la tête. Dans mon expérience tomib 82,5, les astrophages enfermés dans la xénonite ont disparu, tandis que ceux qui sont enfermés dans du plastique sont toujours là. Dans l'autre expérience, en revanche, les 2 groupes d'astrophages sont indemnes. Conclusion, mes échantillons de contrôle, dans les disques en plastique, prouvent que les tomib sont incapables de traverser le plastique et l'époxy. Les échantillons pris dans la xénonite racontent une toute autre histoire. Les tomib 82,5 sont capables de traverser la xénonite, au contraire des tomib naturels. « Qu'est-ce que je suis bête !» m'écriai-je en me donnant une tape sur le front. Dire que je me croyais malin. Tout ce temps passé dans les cuves, toutes ces générations de tomib. J'ai utilisé l'évolution à mon avantage, n'est-ce pas? J'ai produit des tomib résistantes à l'azote. Je suis un génie. Où est donc mon prix Nobel? Je l'attends. Ouais. Oui, j'ai donné naissance à une famille de tomib capable de survivre à l'azote. Mais l'évolution se moque de ce que je veux, et elle ne fait jamais une seule chose à la fois. J'ai produit une tomib en mesure de survivre dans des cuves en xénonite. Bien sûr, elle est résistante à l'azote. L'évolution, cependant, a une façon tout à fait singulière d'attaquer un problème sous de nombreux angles différents. La tomib n'a pas seulement développé une résistance à l'azote. Elle a trouvé un moyen d'échapper à l'azote en se cachant dans la xénonite. Et pourquoi pas ? La xénonite est constituée d'une chaîne complexe de protéines et de substances chimiques que je ne suis pas prêt de comprendre. La tomib, elle, semble avoir trouvé une manière de s'y glisser. Dans la cuve, l'azote cause une véritable apocalypse. Les individus qui se cachent dans les profondeurs de la xénonite survivent. La tomib est incapable de traverser du plastique ordinaire. Incapable également de passer à travers la résine époxy, le verre ou le métal. Je me demande même si elle saurait s'extirper d'un sac fermé par une glissière. Grâce à moi, cependant, la tomib 82,5 a appris à naviguer dans la xénonite. J'ai pris une forme de vie dont je ne savais rien, et je l'ai modifiée avec une technologie que je ne comprenais pas. Il ne pouvait pas y avoir de conséquences imprévues. J'ai été vraiment arrogant de croire que je pouvais tout contrôler. J'inspire profondément et je souffle lentement. Bon, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire. Cette tomib peut pénétrer la xénonite, pas de problème. Je la stockerai dans autre chose. Elle résiste toujours à l'azote. Elle n'a pas besoin de xénonite pour survivre. Je l'ai testée de manière exhaustive dans la vaisselle en verre de mon laboratoire lorsque j'ai isolé la souche, au tout début. Rien n'empêchera le prédateur de faire son travail au-dessus de Vénus. Tout ira bien. Je me retourne vers mes cuves de production. Bien. Je vais fabriquer une grosse ferme en métal. Ce ne sera pas difficile, je dispose d'une fraiseuse et de toutes les matières premières dont j'aurai besoin. Dieu sait que j'ai le temps. Je récupérerai l'équipement opérationnel d'une des fermes de Rocky. Seul le boîtier est en xénonite. Tout le reste est en métal et autres. Je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Il me suffit de la monter sur une voiture différente. Oui, me rassurai-je. Oui, tout va bien se passer. Je vais devoir construire une boîte capable de maintenir une atmosphère vénusienne. Le boulot le plus dur a déjà été fait par Rocky. Rocky. Je suis soudain pris de nausée. Je m'assieds par terre et baisse la tête entre mes jambes repliées. Rocky est parti avec la même souche de Tomib que moi. Ses prédateurs sont stockés dans des fermes en xénonite identiques aux miennes. Toutes les parois critiques de son vaisseau sont constituées de xénonite, y compris les réservoirs. Rien ne sépare ces Tomib de son carburant. Mon Dieu !